Cet après-midi, je vous propose qu'on conduise ensemble une réflexion sur un concept qui est un mot barbare, ça s'appelle l'intergénérationnalité. Ça fait pas peur, hein. Ça veut dire simplement, ce que je voudrais vous partager, c'est comment vivre, comment faire vivre les différentes générations dans l'Église. Et je voudrais commencer en vous disant quelque chose qui est très fort. On va passer un temps de questions-réponses, mais c'est simplement dire que dans l'Église, il n'y a pas de place pour les jeunes. Dans l'Église, il n'y a pas de place pour les aînés ou les vieux, si je voulais faire permettre ce mot-là. Dans l'Église, il y a de la place pour les disciples. Et l'Église du Seigneur ne forme qu'une seule génération de disciples. Il y en a qui sont plus jeunes, il y en a qui sont plus vieux. L'Église locale forme une génération de disciples qui fonctionne comme un corps. Souvent, c'est ce que j'ai constaté moi, en tout cas dans plusieurs églises, et notamment la mienne, dans laquelle j'étais originaire, excusez-moi, où il y avait presque deux communautés qui vivaient parallèlement. Les jeunes vivent le samedi soir, le groupe de jeunes, à quelque chose près, ça ressemble à ce qui se passe le dimanche matin. Et puis, ils arrivent le dimanche matin. Alors, chez nous, c'était marrant parce que il y a certaines églises, c'est au fond. Là, à Grenoble, il y avait trois rangs et les jeunes, c'était le rang de droite. Et donc, il y a les jeunes et après tous les autres. Et puis, à la sortie du culte, on constate quoi? On constate que ensemble, les plus âgés discutent entre eux et puis les jeunes sont ensemble. Alors, ceux qui ont des parents qui sont un petit peu derrière sont très polis, vont voir les personnes âgées, disent bonjour, les respectent, hein, veulent les honorer. Mais au niveau relationnel, il n'y a pas grand-chose de plus. Et puis l'Église essaye dans des réunions de semaine de faire rencontrer ces jeunes dans les groupes de quartier ou églises de maison ou dans des réunions des études bibliques et tout ça. Mais au final, c'est toujours le même modèle qu'on voit. D'un côté, il y a des jeunes et d'un côté, il y a des vieux. Or, les jeunes et les vieux se réjouiront ensemble. N'est-ce pas? Nous l'avons chanté. Amen. Donc c'est un vrai défi de faire vivre l'Église locale comme une seule génération de disciples. Certes avec plein de différences sociologiques, d'âge et tout ça, mais vivre comme une seule génération, un seul corps organique. Alors, je vous propose cet après-midi que tous ensemble, vu qu'on est... parce qu'on va rester en grand groupe.
On peut rester en grand groupe, si ça c'est impératif, sinon on peut...
Ouais.
Ok.
Alors, le jeu, il faut vraiment en fait qu'on participe tous. Parce que sinon, ça n'aura pas trop de valeur. Ce qui va faire la qualité du moment qu'on va avoir, c'est ce que chacun va pouvoir, va être fait de ce que chacun va pouvoir amener aussi sur la table pour qu'on puisse mettre la réponse, enfin les réponses en commun. Alors, je vais vous poser une série de questions et j'aimerais vraiment qu'il y ait des jeunes et des vieux qui répondent ensemble.
D'accord.
Alors, première question. À votre avis, quelles sont les attentes de la nouvelle génération? Alors, je vous contredis avec ce que j'ai dit avant, mais je fais exprès pour distinguer. Donc, qu'attendent les jeunes vis-à-vis des aînés dans les églises? Alors, on a posé déjà la question hier soir aux jeunes, ils ont apporté des choses, mais j'aimerais que les jeunes parlent, et j'aimerais aussi que les aînés parlent. Qu'est-ce que eux, ils identifient comme attentes vis-à-vis des jeunes. À vous la parole.
Leur laisser la place.
Leur laisser la place. Est-ce que vous pouvez un petit peu préciser ce que vous voulez dire?
Qu'ils aient droit à la parole aussi, qu'ils aient droit à participer.
D'accord, merci.
Des conseils.
Ok. Oui. De la confiance. Ah, intéressant. de la compréhension. D'accord ? Les jeunes.
Responsabilité.
Développe, s'il te plaît.
Que les vieux
nous
donnent plus de.
On veut le pouvoir. D'accord, la prise de responsabilité. D'accord. Très bien. Si vous redites la même chose, c'est pas grave. On veut mettre, faire ressortir des dominantes.
Des témoignages, d'expériences vécues.
D'accord.
Des exemples. Les deux des exemples.
Des exemples. D'accord.
Des soutiens.
Du soutien.
Les jeunes partagent.
D'accord.
Les questions.
Ok. Oui.
Moi, j'aimerais qu'on définisse le terme vieux et le terme jeune.
Voilà. Non, alors, je dirais arbitrairement, j'ai 29 ans encore quelques jours. Donc, je dirais que les vieux, c'est à partir de 30 ans. Voilà. C'est moi qui décide. Non, mais je dirais, les jeunes, je parle jusqu'à étudiants, disons avant l'entrée dans la vie active et qu'on se construise vraiment une famille, qu'on devait. Ah, mais du coup, moi je suis dans la vie active, donc ça va pas mon modèle. Non, mais enfin, voilà. On est un peu souple. On peut être les deux. D'autres idées d'attente qu'ont ces jeunes-là? Les jeunes, on vous a pas trop entendu. Ouais. Ce qui se passe cet après-midi reste là. Ça sortira pas, ça fuitera pas. C'est... Ouais. Alors, est-ce que vous avez les notes de hier soir? Oui. D'accord. Ah.
Du soutien.
Plus fort, plus fort.
De l'influence, de l'aide pour l'organisation, de l'unité avec les générations, une ouverture sur ce que font les jeunes, du témoignage des enseignants.
D'accord. Alors je vous propose d'aller à la question suivante, qui est quels sont leurs besoins, quels sont les besoins spécifiques à la jeunesse dans l'Église. Ce qui concerne leur génération à eux, en tant que jeunes chrétiens et aussi jeunes chrétiens au XXIe siècle. D'accord. Moi je le veux bien, c'est des personnes. Ok. On continue? Alors, parce que je fais une précision. J'ai fait une école d'éducateurs spécialisés. Je suis éducateur spécialisé de métier. Et on fait souvent la différence, par exemple, si on prend le cadre de jeunes adolescents qu'on accompagne, entre leurs besoins, les besoins que eux vont manifester, et les besoins que l'adulte va identifier. Des fois, ça se rencontre. Des fois, c'est antinomique. Des fois, un jeune, il veut plus de liberté, ou plus. Un enfant voudrait plus de bonbons, c'est son besoin, il a besoin de bonbons. Puis un adulte dit non, t'as besoin d'autre chose. Et des fois, ça se rencontre. Et je voudrais là que, justement, Quels sont les jeunes, vous, quels sont vos besoins? Et est-ce que les adultes identifient les mêmes besoins? Et est-ce que les jeunes, vous êtes prêts à entendre ce que les adultes ont à vous dire? Vous l'avez dit juste avant. Alors, à vous la parole.
Et quelle différence tu fais entre attente et besoin?
Attente, c'est ce que tu veux que la génération d'au-dessus fasse pour toi. Et toi, tes besoins, c'est ce qui t'est propre. C'est de quoi tu as besoin pour bien fonctionner, bien vivre ta vie de jeune chrétienne.
D'écoute.
D'écoute. S'il y a des doublons, hein, il peut avoir une attente et en même temps un besoin. Hein. En général, ça se rejoint. Hein. Des enseignements. Besoin d'enseignement. D'accord.
Sur les aigus, c'est que piano et on n'a pas le droit d'avoir d'autres instruments.
D'accord. Enfin, voilà. D'accord. Besoin de renouvellement.
Voilà.
Un petit peu dans la. D'accord.
Oui, j'allais dire la même chose que les anciens écoutent. Les écoutent justement, c'est dans leurs besoins de renouvellement. On dit surtout pas de mettre trop fait comme ça, ça marche très bien. Ils ont besoin d'innover et de changer les choses.
D'accord.
Juste un petit truc, ça. Mais si tu arrives à reformuler les interventions,
d'accord.
Ça, elles sont bien prises pour les enregistrements.
D'accord, oui. Alors, un besoin. Les jeunes ont besoin d'être écoutés. C'est ça ?
Oui, pour être écoutés, il faut déjà qu'ils osent parler. Et il n'y a pas de. On ne peut pas parler si on n'a pas confiance, si il y a pas un climat de confiance.
Donc les jeunes ont besoin d'un climat de confiance pour pouvoir exprimer leurs besoins. Très juste.
Les jeunes comprennent les vieux.
Les jeunes ont besoin de comprendre les vieux. D'accord. Oui ?
Oui.
Oui. Ils ont besoin de comprendre les vieux. Pourquoi est-ce qu'ils se comportent comme ça? Pourquoi est-ce qu'ils donnent tel et tel conseil? Peut-être d'abandonner un peu leurs préjugés vis-à-vis d'une génération avant et de se dire s'il y a des conseils qui me sont donnés, il y a peut-être derrière une vraie sagesse. Il y avait plusieurs mains. Donc, besoin d'exprimer leurs émotions, leurs ressentis, et se sentir libre de le faire, parce qu'ils savent que ça va être accueilli par l'aîné, sans forcément être jugé tout de suite. D'accord.
Oui, moi je pense à un besoin qui est un besoin de défi.
Un besoin de défi.
De défi spirituel. Défis,
ouais.
Dans le cadre de l'Église, des défis spirituels, c'est très stimulant. Qu'il y ait quelqu'un de plus expérimenté qui puisse dire, tu pourrais faire ça.
Okay.
Qui propose un défi à un plus jeune.
D'accord, donc des défis que les aînés, les jeunes ont besoin que les aînés leur donnent des défis à relever spirituellement. Et aussi des défis pour leur vie d'une façon générale. Super. Ils ont besoin d'être encouragés. Vous avez raison.
Oui, d'accompagnement, parce que nous, on tient 2 semaines et après on coupe.
Long terme.
Ouais. Besoin d'accompagnement au long cours. Au long terme, d'être accompagné. Ouais. D'accord, d'un accompagnement de la génération avant. Très important ça, merci de l'avoir dit.
Peut-être justement que les accompagnements de je ne sais pas comme ça sur les églises, mais
un accompagnement adapté, d'être pris là où on en est. Super. Donc, un besoin de voir la relation qu'ont les aînés avec leur Seigneur, une relation vivante, qui n'est pas terne, mais qui est dynamique, qui les transforme. Super. Ok, bah là, c'est riche déjà. Hein. C'est très riche, hein, vous voyez. Alors, maintenant, on va passer aux aînés. Et on va se poser les mêmes questions. Donc, quelles sont les attentes des aînés maintenant vis-à-vis de la nouvelle génération? Qu'attendez-vous de vos jeunes? Et vous, les jeunes, que pensez-vous qu'ils attendent de vous?
Pourquoi il y a une majuscule? Parce qu'il y a plus d'attentes chez les...
Non, c'est une coquille. C'est une erreur de ma part. Je m'en excuse.
De l'engagement.
De l'engagement. D'accord. Vous attendez que les jeunes soient motivés.
Qu'ils fassent bouger l'Église, qu'ils aient des idées. De...
Qu'ils vous remettent en question.
Oui.
Excellent. Vous êtes audacieux, hein.
Ils ont peut-être plus d'impôts parce que nous-mêmes, nous sommes chrétiens, parce que les générations antérieures, les parents, ont pas les anciens, qui ça aux jeunes, etc.
D'accord. Qui prennent le flambeau, qui reprennent le relais dans les églises. Quelles sont vos attentes encore?
Juste un résumé, mais qui s'avancent, dans le sens de dire, juste pour voir, moi dans les deux jours, hier et aujourd'hui, 5 ou 6 fois, j'ai vu des jeunes s'avancer de manière concrète, pratique, besoin d'un coup de main, ils voient les choses, et ça je trouve que c'est génial.
Qui s'avance. Est-ce que je pourrais rajouter du coup l'esprit d'initiative?
Voilà.
Se risquer à faire quelque chose de nouveau. Super.
Qui s'engage dans l'église locale.
Qui s'engage dans l'église locale. Un ancrage local.
Qu'ils aiment l'église.
Qu'ils aiment l'église. Ah, super. D'accord. Alors vous voyez, déjà on voit qu'il y a des réponses communes. Hein. On va passer à la question suivante. Du coup, c'est un petit peu la même. Alors je l'ai formulée de façon différente, mais je ne suis pas très satisfait de ma formulation. Quels sont les besoins des aînés pour aider à la croissance de leur église? Est-ce que vous comprenez la question? Les aînés sont engagés dans l'église, ils sont acteurs. Quels sont leurs besoins à eux? Quels sont vos besoins à vous qui êtes aînés pour que votre église puisse continuer de grandir, de s'affermir? Quels sont vos besoins? Que les jeunes prennent conscience de leur appel et de leur ministère. Waouh, génial. Donc, si je reformule, qu'ils prennent conscience de leur appel, de leur ministère. Qu'ils se forment, qu'ils prennent le temps de se former. D'accord, la vision d'un appel. Ouais. Se former et être prêt à s'engager. Se former pour être prêt à s'engager. Je répète pour ici. D'accord. D'autres besoins, les jeunes, qu'est-ce que vous voyez comme besoin parmi les aînés? Vous les voyez servir. Ils sont là depuis des années. Vous les voyez à fond, au taquet, comme on dit à Grenoble. Et du coup, quand vous les regardez, quels sont leurs besoins? Ils ont besoin d'être renouvelés. Merci. Oui ? Ils ont besoin d'être encouragés, comme les jeunes. Chaque génération a besoin d'être encouragée par l'autre. Super. Besoin d'être épaulé, merci.
Dans l'organisation, dans les communs, dans les informations, sur le temps de marché, partout.
D'accord, donc besoin d'être épaulé dans l'action, dans les ministères, dans tout ce que les activités que l'église locale développe. Besoin que les jeunes se rendent disponibles pour aider. Très bien. Super. Ouais, c'est très... Alors, vous m'avez surpris. Je ne m'attendais pas à avoir autant de qualité de réponse. Vraiment. C'est super. Alors, du coup, maintenant, je vous en pose une dernière pour qu'on essaye ensemble de faire une synthèse. Et après, ça m'amènera à vous présenter quelques principes qui sont bons pour nous à mettre en place. Dernière question. Comment l'Église pourrait-elle répondre aux besoins et attentes des jeunes comme celles des aînés ? Est-ce que les attentes respectives des jeunes et des aînés peuvent trouver une réponse commune et au lieu de créer encore deux fois plus de besoins, que les besoins des uns et les besoins des autres se rencontrent et se répondent et créent un cercle vertueux et permettent la croissance de l'Église. Ça serait super.
Quand on utilise le terme Église, c'est comme si c'était une entité au-dessus qui regardait les jeunes et les vieux. Mais la raison d'Église, c'est nous. C'est la raison morale. C'est-à-dire, la raison morale constitue le terme physique. Je pense que si les anciens, les vieux, par exemple,
oui.
Les vieux, vivaient ce qu'ils disent, c'est-à-dire que comment que les jeunes veulent-ils croire, comment veulent-ils suivre, etc. Si nous, les vieux, disons Dieu est vivant, et on marche indépendamment, quand Dieu est fidèle, si nous-mêmes, on a le moindre obstacle qui se comporte devant nous, on tremble, on oscure, on sait comment veulent-ils croire.
D'accord.
Que Dieu est victorieux.
Oui. Donc,
Notion d'exemple.
Voilà, notion d'exemple. Être des modèles. Tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez d'autres idées ? Oui. Les aînés. D'accord. Donc que les aînés prennent l'initiative. Ouais, l'initiative montre un modèle, on a un peu la même idée, et l'initiative de l'innovation aussi, si j'ai bien compris ce que tu disais. Ouais, mais alors là vous êtes vraiment, ça revient tout sur les aînés, hein, ceux qui portent le fardeau là. D'accord. Donc excellent. Donc les aînés ont la sagesse et l'expérience, et les jeunes ont les idées et
l'énergie.
Et l'énergie. C'est un petit peu caricatural. Mais c'est. Oh, oui, oui, oui.
Les jeunes aussi, peut-être, il faut qu'ils comprennent que les plus anciens qui ont parfois leurs
D'accord. Donc, que ça aille dans les deux sens et que les anciens soient indulgents envers les plus jeunes. Voilà. Ouais. Ouais, ouais. D'avoir un droit à l'erreur. Oui. Oui. Ouais. D'accord. Donc accorder le droit à l'erreur aux jeunes et leur accorder aussi le droit de remettre en question les habitudes. Super. Super. Bah écoutez, je vous tire mon chapeau parce que j'ai l'impression que j'ai beaucoup de choses à vous dire. En tout cas, vous avez saisi vraiment le centre le nœud, non pas du problème, mais du défi qui est devant nous, c'est de fonctionner comme une génération. Et que je crois que s'il y a une réponse qui est biblique, nos besoins et nos attentes respectives se rencontrent et se comblent. Et c'est ce que je voudrais vous montrer maintenant. Et après, libre à vous de m'interrompre, de faire un commentaire aussi, je sais bien si c'est interactif, et de réfléchir aussi comment est-ce que ça peut se traduire de façon concrète dans votre réalité locale. Je ne connais pas vos différentes assemblées, et c'est difficile pour moi de vous dire ben, il n'y a qu'à, il faut que. Enfin, ça serait très prétentieux de ma part. Mais vous, avec vos réalités, quelles idées concrètes peuvent être mises en place pour vivre comme une génération et faire répondre les besoins? Et là, on va voir un petit peu le cadre biblique de tout cela. Alors, ça va être un petit peu conceptuel au début. Je vous demande d'être... d'être fort. Et ça va très bien aller, ça c'est rapide. Alors, si je récapitule, alors vous voyez, j'avais anticipé un peu, et on va ces besoins-là, si je les mets par vraiment grande thématique, je pense que les anciens, que ce soit ceux qui sont, enfin les aînés, et puis aussi les responsables des églises, ont besoin d'une vision qui soit biblique. Ils désirent voir une croissance de l'église et un affermissement de la foi des disciples. Et puis, ils ont besoin de gérer les transitions. Et c'est quelque chose de capital. Souvent, les transitions dans les églises locales sont synonymes de tension. Transition parce que plusieurs de jeunes générations ou de personnes qui étaient fortes dans l'église s'en vont, sont mutées, partent pour l'école. Et puis du coup, l'église se retrouve déséquilibrée. Il y a des responsables qui n'étaient plus là, des personnes très actives qui n'étaient plus là. Ou sinon, des jeunes arrivent, sont là, grandissent. Et puis, bon, on l'a dit, hein, tout le monde est d'accord, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On a envie que les jeunes nous remettent en question, qu'ils nous stimulent aussi. Mais quand ils le font, souvent, ça ne fait pas trop plaisir. Non ? Ok. Moi, c'est ce que j'ai constaté parfois, c'est que des fois, les jeunes ont plein d'idées. Et souvent, ça peut être le rideau est fermé, non, c'est comme ça. Nous, on sait comment ça marche, on sait ce qui marche. Notre expérience prévaut sur tes idées. On a déjà essayé, on a bien vu que ça ne marchait pas. Faire fonctionner, justement, les différentes générations, du coup, ensemble, c'est de vivre comme un seul corps et qu'il n'y ait pas des sous-communautés au sein de la communauté. Qu'il n'y ait pas des relations qui soient uniquement artificielles et qui se passent que lors de réunions. Mais que, vraiment, les réunions soient au service des relations. Les besoins de la nouvelle génération, ils ont besoin de pères. Donc on était tout dans cette question de modèle, d'exemple, de sagesse qui est manifestée devant eux. Et je parle de père parce que j'ai constaté au travers de mes études, mon expérience personnelle et dans la nouvelle génération, qu'il y a un gros problème parmi les pères dans notre société. La plupart des jeunes que j'ai aujourd'hui, que j'avais à Grenoble, qui voulaient se lancer dans la responsabilité, étaient de parents avec un couple très dysfonctionnel, où le père, l'autorité du père était totalement absente, où une autorité qui en tout cas n'était pas biblique, un autoritarisme, machisme, etc. Ou des parents divorcés, avec un père absent. L'absence du Père est quelque chose qui est à prendre en compte. Et j'ai vu des anciens qui, eux, avaient eu justement un modèle paternel, une culture avec un modèle paternel encore très fort, qui avaient eu des repères, attendre que les jeunes se comportent comme des hommes. Et ne pas comprendre que ces jeunes-là n'ont pas de repères, ne comprennent pas l'autorité et tout ça. Parce que ces jeunes, non, ils ne peuvent pas produire ce qu'ils n'ont pas reçu. Et ça, il faut le prendre. Il y a un nouveau paradigme au XXIe siècle, c'est que le père, la figure du père, de l'autorité, est attaquée, est remise en question, est souvent défaillante. Et vous le retrouverez d'autant plus parmi les jeunes qui sont une première génération de chrétiens dans leur famille. Tu l'as dit. Ils ont aussi besoin de repères. On parlait de modèles, mais ils ont aussi besoin de repères. Et de comprendre ces repères, les jalons que l'Église va poser, qui sont là, qui doivent être bibliques, nous sommes tous d'accord, pas besoin d'en débattre, mais ces repères, ils ont besoin d'être clairement identifiés et d'en comprendre le sens. Et je vous renvoie, les jeunes, à la discussion qu'on avait à midi, par exemple, sur la question du mariage. Il n'y a pas « il faut que », mais il faut comprendre quel est le mariage, quel est le sens du mariage, ce que Dieu attend là-dedans. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que, encore une fois, la société remet beaucoup en question les repères actuels. Hein, pas besoin de rentrer dans les détails. Ils ont aussi un désir de se risquer à la responsabilité. Ça a été manifesté. Ils ont envie de s'essayer, d'essayer des nouvelles choses, d'innover, des idées à mettre en œuvre. Et puis, un désir d'une formation andragogique. Alors, ce mot est barbare, mais ça veut dire... C'est le pendant, si vous voulez, de la pédagogie. Dans la pédagogie, c'est l'adulte qui décide pour l'enfant d'un programme d'éducation. Donc la pédagogie, on enseigne. L'andragogie, en fait, on parle, c'est la pédagogie pour les adultes. Ça a des nuances prêtes, c'est qu'on constate que les adultes sont prêts à se former, mais veulent choisir les éléments de leur formation. Et je trouve ça particulièrement... et qu'il y a des points de contact très forts avec la formation de disciples. C'est-à-dire que nous avons des jeunes disciples, qui, ceux qui sont au Seigneur, ont reçu Saint-Esprit, reçoivent des dons, et ont besoin d'être formés pour mettre en place leur ministère. Ça a été formulé tout à l'heure là-bas au fond, besoin de prendre conscience de leur appel, besoin de prendre conscience de leur ministère qui est naissant, et besoin d'être formés en vue du ministère auquel Dieu les appelle. Et donc, ils ont besoin, et il y en a qui vont avoir envie de manger des études bibliques, parce qu'il y a en eux une fibre de futurs enseignants. Il y en a qui vont avoir à cœur de recevoir des formations apologétiques, d'évangélisation, parce qu'ils ont un cœur d'évangéliste. Et donc, il faut comprendre que la formation de disciples, il y a une base qui est commune pour tous les disciples, mais que chaque disciple aussi a besoin d'être accompagné pour rentrer pleinement dans le ministère que le Seigneur lui confie. Et ça, ça se fait, c'était ce qui était dit par là tout à l'heure, c'est un accompagnement au long terme. On ne le sait pas du jour au lendemain, mais ça se crée, ça se construit petit à petit. Alors, c'était ma question, est-ce que ces attentes respectives peuvent s'atteindre, se rejoindre? Oui, et c'est la belle et grande nouvelle du Seigneur, c'est que l'Église, c'est la sienne, et que c'est lui qui la structure, c'est lui qui la crée, c'est lui qui la pensée, c'est lui qui la dirige, c'est lui qui est souverain dessus, et l'Église, ça marche dans le plan de Dieu. Mais ça marche si on a un modèle de leadership dans l'Église qui est biblique. Et souvent, notre modèle de leadership se retrouve dévié et ressemble plus à un modèle de leadership au modèle de leadership de la société. Et je voudrais maintenant vous montrer, c'est là que ça va être, il y a une diapo qui est un peu plus... voilà, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Alors, le leadership biblique. Alors vous allez me dire, on ne reconnaît pas ce qui est dans la Bible, mais après vous allez voir, en fait, on est tous d'accord. Quand on parle de leadership, on parle de deux axes. Le premier, c'est l'axe de la direction. Ce que je vous présente là, ça a été présenté par d'autres, notamment Bill Jones et aussi Raphaël Hanzenberger qui a repris ça. Donc moi je reprends ce que l'un a repris, qui a repris l'autre, mais non, voilà. pour dire que ce n'est pas moi qui ai créé tout ça, je ne suis pas assez brillant pour ça. Donc, il y a un modèle de direction. On est plus ou moins dans la direction, c'est-à-dire on mène. On est leader, on est devant, on est responsable et on mène. Et il y a des personnes qui sont plus ou moins dans cette action-là, sur cet axe-là. Ça va ? Mais il y a un autre axe, toujours, qui est celui qu'on peut dire en français, mais c'est... Ça s'appelle la capacitation. Tout simplement, ça veut dire rendre l'autre capable. Les Anglais ont un mot qui fait beaucoup plus classe, ils disent « empowerment ». Vous avez peut-être déjà entendu ça, c'est « empowerer l'autre ». Enfin, ce n'est pas du tout français, c'est un barbarisme total. Mais ça veut dire « rendre l'autre capable ». Et donc, on rend l'autre capable ou pas. Et il y a plusieurs modèles, selon ces deux axes, de leadership. Par exemple, le modèle A, c'est un modèle de leader qu'on pourrait appeler attentiste. On retrouve ça, par exemple, dans les dictatures, vous savez, dans les technocrates qu'on peut placer dans des bureaux. On leur donne une responsabilité, mais ils ne sont pas du tout leaders, et ils ne font rien pour aider les autres à avancer non plus. C'est positionnel, je suis là, tranquille. On peut en retrouver dans tous les postes. On est là, on vient, on prend sa paye et on reste peinard surtout. On ne bouge pas, on n'a vraiment pas envie de s'engager et on n'a pas envie d'aider les autres non plus. Puis il y a un autre modèle, le modèle B, qui est celui qu'on retrouve de plus en plus à la mode aujourd'hui. C'est le modèle du coaching. Un coach, par exemple, en entreprise, va dans l'entreprise. Et alors lui, il ne va pas être lui-même en situation de leadership. Ce n'est pas lui qui dirige, il n'a aucune responsabilité, mais il va donner des conseils. Voilà ce que je vous recommande pour améliorer votre productivité, la rentabilité, voilà la gestion du personnel, ce que je vous conseille et tout ça. Et il y en a aussi dans les églises qui ne prennent aucune responsabilité, mais par contre qui donnent des conseils à tous les autres. C'est un modèle de leadership qu'on peut retrouver aussi dans l'église. Puis il y a un autre modèle, alors celui-là, c'est l'archétype du leader français. Le leader franco-français dans notre culture, c'est hérité un petit peu dans la culture populaire du monarchisme, c'est le leader charismatique. C'est le gars qui a des épaules larges comme ça, qui est fonceur, qui a les idées, qui est vraiment droit devant, mais par contre qui va être très paternaliste. On ne peut pas faire quelque chose sans son approbation. Il a la main mise sur tout, il décide de tout, et c'est le patron un petit peu à la française. Et la France aime avoir des patrons comme ça, et en même temps aime les détester. En même temps, vive le roi, et le roi est mort, vive le roi, quoi. Vous voyez, c'est hérité. Est-ce que vous reconnaissez un petit peu ce modèle-là, hein? C'est quelqu'un de très charismatique, mais si lui n'est pas d'accord, aucune chance qu'un projet se réalise. Donc on se dit des fois, on peut voir dans des pastorales ou dans des conseils d'anciens, où on se dit, enfin moi c'est ce que j'ai vu ça, des fois je vous avoue, j'ai été bassement stratégique, je savais que lui, il faut qu'il soit convaincu, parce que si lui, il n'est pas d'accord, et qu'il dit qu'il n'est pas d'accord, personne ne bougera. Donc, du coup, on essaie de travailler au corps et on essaie de le convaincre, quoi. Mais si lui, il n'est pas d'accord, terminé. Et puis il y a un dernier modèle. Ici, le modèle D, qui est le modèle du leader biblique. C'est qu'il est lui-même en position, il est devant, il est leader. Mais il permet aux autres de devenir capables. Il ne voit pas sa position, il ne voit pas son statut, sa place comme une position dans l'Église à maintenir, à garder, mais il se voit plus dans une fonction. Je suis devant, mais mon rôle, c'est de prendre les autres et de leur permettre aussi d'avancer. Et je voudrais vous donner quelques citations. La première, c'est 2 Timothée 2:2. Je suis sûr qu'il y en a au moins un qui la connaît. 2 Timothée, chapitre 2, verset 2.
Je ne sais pas ce que je t'ai enseigné...
Ouais. Est-ce qu'il y en a un qui a une Bible qui nous sort exactement?
Transmets-le à des hommes de confiance.
Qui soient fidèles et capables afin que eux aussi puissent le retransmettre à d'autres. Donc, moi, Paul, ce que j'ai été retransmis à toi, Timothée, première génération, retransmets-le à d'autres, troisième génération, qui soient capables de le retransmettre à d'autres. Donc, moi, j'étais devant, je t'ai donné un modèle. Toi, tu m'as suivi, et maintenant, fais en sorte que les autres aussi passent devant. Vous comprenez ? Est-ce que quelqu'un peut nous le dire ? Oui ? Super. Fidèle et capable. Alors, et j'ai vu un parallélisme assez étonnant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire, mais quand Jéthro, le beau-père de Moïse, vient à la rencontre de Moïse, quand il est en train de conduire le peuple dans le désert. Jéthro vient le voir et il voit Moïse qui il court de partout, il s'occupe de toutes les affaires du peuple. Enfin, il n'en peut plus, quoi. Il est sur les genoux. Et Jéthro lui dit, mais mon gars, tu fais n'importe quoi. Enfin, version en français courante, selon... tu fais n'importe quoi, trouve 100 gars, 100 personnes qui soient quoi ? Fidèles et capables. C'est les deux mêmes caractéristiques. Fidèles dans leur engagement et qui soient capables, qui aient les capacités de faire. Et tu délègues et tu les mets eux en position aussi de responsabilité. Et là, c'est ce que Paul fait, et ça multiplie, ça passe de Paul à Timothée, après Timothée à plusieurs, et ces plusieurs ont la responsabilité de donner à plusieurs. Et il y a une multiplication du leadership. Le leadership biblique se mesure par le rayonnement du leadership qu'exercent ceux que nous influençons. Et j'aime bien la formulation de Raphaël Hanselberger, c'est « Montre la taille des fruits qui poussent sur les arbres de ceux que tu diriges, et je te dirai quel leader tu es. » Le leadership biblique se mesure à la capacité que l'on a à rendre les autres aussi leaders, à s'engager, à prendre des responsabilités et d'aller de l'avant. Donc un ancien qui est fatigué, un jeune qui a envie de prendre des responsabilités, si un leadership biblique, qu'on ait une bonne conception du leadership, en fait c'est vertueux. Et on rentre dans une mécanique, une relation organique qui est biblique. Christ est le modèle du serviteur que les adultes doivent incarner et que les jeunes doivent rechercher. Et Paul insistait beaucoup sur cette notion-là, de modèle, et inviter les autres à le suivre, à le prendre comme modèle, pour autant que lui tente de ressembler à Christ. Du coup, le leadership biblique, c'est celui de Jésus. Et j'ai un ami qui a suivi beaucoup d'études de leadership aux États-Unis dans de prestigieuses facultés de théologie. Et il me racontait que il a reçu, il a fait jusqu'à un doctorat, et jusqu'au cours de doctorat, il a reçu des cours de leadership. Alors, il y a plein d'auteurs aux États-Unis, en France, pas trop, vraiment même pas du tout. On a très peu de bouquins sur le leadership en tant que tel, mais aux États-Unis, le leadership, ils aiment beaucoup ça. Et alors, il y a une foule d'auteurs qui ont écrit des livres sur le leadership. Et donc, on retrouve un chapitre, c'est le leadership selon Adam, le leadership selon Abraham, le leadership selon Moïse, le leadership selon Jacob, le leadership selon Jésus, le leadership selon Pierre, le leadership selon Paul. Et le leadership de Jésus se retrouve comme étant un modèle de leadership parmi nous. Mais tous les modèles de leadership que l'on voit dans la Bible doivent être évalués par rapport à celui de Jésus. Parce qu'il est le modèle de Dieu. C'est le modèle de leader. Ce n'est pas Paul, c'est Christ. Paul le dit lui-même. C'est Christ, le modèle de leader. Donc, ce frère me racontait qu'il a eu un prof de leadership qui arrivait. Dommage, il arrivait quand il était en cours de doctorat. Il a dit, bon, vous voyez tous ces bouquins de leadership là, où il y a un chapitre par leader, avec toutes ces théories sur le leadership, prenez tout ça, vous mettez tout à la poubelle. La seule chose que vous avez besoin de savoir, c'est que votre modèle de leader, ça doit être Jésus. Et vous devez chercher à vous comporter comme lui avec ses disciples, en tant que pasteur et futur responsable d'église. Et cet homme a eu l'occasion d'être invité parce qu'il est reconnu comme étant une des éminences en domaine de leadership. Il a été invité par le gouvernement de Somalie, un État islamique. Et invité par le gouvernement islamique, donc de Somalie, on lui a posé cette question, donnez-nous des conseils pour être vraiment des bons leaders. Le pays est en crise, il y avait vraiment une réflexion au niveau du leadership. Et face à un auditoire donc musulman, ce professeur de leadership a dit, si vous voulez être des bons leaders pour votre pays, essayez de ressembler à Jésus. Mais ça va pas la tête, on est musulman. J'ai vraiment gonflé mon bien ça. Il a dit ouais. Puis il y avait des femmes dans le gouvernement. Et il s'est tourné vers ces femmes et il leur a dit, est-ce que vous pouvez suivre le modèle de Mohamed dans votre vie pour être des leaders? Jésus, c'est le modèle ultime de Dieu. Jésus a passé la majorité de son ministère avec des hommes en vue de les former. Si vous réfléchissez bien, Jésus, il n'a pas choisi ses disciples à la fin, une semaine avant la fin. Il les a convoqués, il leur a fait un enseignement magistral d'une semaine, et puis il leur a dit maintenant allez faire des disciples. Dès le début de son ministère, il les a pris. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on connaît tous Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Si on demande le dernier commandement de Matthieu, on le connaît tous par cœur. Le mandat missionnaire, c'est super. Mais le premier commandement que nous avons en Matthieu, c'est quand Jésus va voir les premiers disciples, Pierre notamment, et lui dit « Suis-moi et je ferai de toi un pêcheur d'hommes. » Et pendant 3 ans, il forme, et à la fin, il lui dit « Maintenant, t'y vas. Je t'ai fait pêcheur d'hommes. Maintenant, c'est à toi d'y aller. C'est à toi de poursuivre mon œuvre. De rentrer dans la grande histoire. » Le fruit d'un leader n'est pas des suiveurs, mais d'autres leaders. C'est ce que Jésus a fait. Le leader est une personne qui a le sens et la puissance de pouvoir projeter sur les autres son ombre ou sa lumière. Notre citation qui va dans le sens de ce qu'on disait. Et puis il y a une image de Leighton Ford que j'aime beaucoup, c'est du baobab au peuplier. On dit souvent que c'est une image que j'aime beaucoup. Vous voyez un baobab ? C'est gros, c'est majestueux, c'est le leader à la française. Mais autour d'un baobab, il n'y a rien qui peut pousser. Parce qu'il projette tellement d'ombre que rien ne peut pousser autour d'un baobab. En revanche, un peuplier, ça a l'air beaucoup... C'est moins majestueux. Mais par contre, un peuplier, je crois, peut donner jusqu'à 15 000 autres pousses, peut donner naissance à 15 000 autres peupliers. Et soit on a un leader, un modèle baobab, soit un modèle peuplier. Et c'est là le schéma de 2 Timothée 2:2, c'est que le modèle, par exemple, de leadership à la française, c'est celui que vous avez à gauche, tout est centré sur le leader, et les gens sont au service du leader. Mais le leadership biblique, c'est ce que je t'ai retransmis. Retransmets-le à d'autres, qu'ils soient capables de le retransmettre à d'autres. Et on poursuit la boucle comme ça. Du coup, ça va se manifester par des relations qui sont vraiment intentionnelles. C'est tout ce que vous avez dit. Des relations dans lesquelles les aînés développent la capacitation de rendre les autres capables au travers de relations, d'amitié, pour que les plus jeunes puissent petit à petit rentrer dans leur ministère, développer leurs dons, prendre des responsabilités et partager avec elles les ressources de Dieu. Tout ça, vous l'avez dit, ce n'est que reformulé. Donc le fruit de ces relations... Il y a juste 3 axes. Il y a premièrement une vraie amitié fraternelle. Et j'aime beaucoup Mike Evans qui dit que le problème dans les églises, c'est qu'on a beaucoup trop de frères, mais pas assez d'amis. On est frères. Et notre frère, être frère, c'est aussi un statut. On ne choisit pas. On l'est de fait. Mais l'amitié, elle, est intentionnelle. La fraternité est intentionnelle. Il faut vivre comme des frères, comme dans une famille. La formation du caractère. Les jeunes ont besoin d'avoir leur caractère qui soit formé. Et un accompagnement dans le ministère. Tout ça, vous l'avez dit. J'ai anticipé, mais en fait, on est tous d'accord. Du coup, en leadership, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'ai mis 2 cases. en termes de leadership, ce qu'on entend pour que ça devienne un peu plus concret. Est-ce que vous avez des questions? Vous dormez? Pas trop encore, c'est vrai, j'ai eu un petit moment, vous êtes bien, vous êtes courageux. D'accord, alors, en termes de leadership, l'adulte, il va partager son expérience, le jeune, il va puiser la sagesse. Les besoins se rencontrent. Et puis, l'adulte ne va pas s'attacher à son poste, par exemple, qu'il soit ancien, qu'il soit pasteur. Attention, je ne parle pas d'être démissionnaire et de ne pas persévérer dans la responsabilité. Mais il ne va pas fonder son identité sur son ministère. Il fonde son identité sur sa relation avec Christ. Et apprend aux jeunes à ne pas fonder sa valeur sur son ministère, mais sur sa relation avec Christ. Et du coup, il permet aux jeunes de s'essayer aux responsabilités. On est prêt à déléguer des responsabilités. Et donc, l'influence que ça a sur l'Église, c'est qu'elle édifie les futurs leaders au sein de l'Église locale. Souvent, les églises locales sont obligées d'aller chercher un leader, un pasteur, un temps plein, à l'extérieur, parce qu'elles pensent qu'elles n'ont personne à l'intérieur. Mais si on réfléchit, c'est qu'il n'y avait peut-être aussi pas de culture de discipulat, et il n'y avait personne pour se lever parce que personne n'a été accompagné. C'est une des raisons qui peut être identifiée. Ne fonde pas son identité sur son ministère, ne construit pas son identité sur son ministère. Du coup, c'est l'ensemble de l'Église qui a la possibilité de s'approprier les ministères. Il s'assure de montrer un modèle christocentrique de service, suivre le modèle de Christ. Et le jeune, lui, il apprend à servir, à devenir un serviteur selon le modèle de Christ et pas de la génération précédente. Le modèle, c'est Christ, c'est pas la génération précédente. Et c'est valable pour toutes les générations. Et donc, l'Église, comme ça, s'identifie sur des pratiques bibliques de leadership et non pas des pratiques qui sont culturelles. Parce que si la nouvelle génération ne fonde son modèle de leadership que sur la génération précédente, on est dans le culturel. Parce que si la génération précédente a fait pareil sur la même, après on se trouve avec des pratiques dans les églises qui sont uniquement culturelles et qui sont plus bibliques. Excusez-moi. En termes de formation du caractère, l'adulte doit offrir un cadre relationnel sécur. C'est encore un mot d'éducateur spécialisé, mais un cadre relationnel dans lequel le jeune va se sentir en confiance et va oser poser des questions, se livrer, parler aussi de ses tentations, parler de ses difficultés, de ses rêves, parce que l'aîné est prêt à les accueillir, est prêt à faire grâce, est prêt à donner des conseils. Et puis l'adulte aussi, il a cette responsabilité de poser les questions qui tuent, de sonder les motivations du plus jeune. Oser aussi, parce qu'il a une relation qui est de confiance, poser les questions qui tuent. Est-ce que tu as dans ta vie quelque chose qui n'est pas en règle, avec laquelle tu voudrais que moi je prie pour toi et que je t'aide, parce que moi aussi j'étais jeune et j'ai connu ces tentations. Et je les connais encore d'ailleurs, je suis honnête. Et puis le jeune, du coup, il va pouvoir examiner ses motivations. Il montre sa faiblesse et son besoin de grâce. Et j'ai la chance d'avoir une relation privilégiée avec Alain Stamp, qui est pour moi comme un mentor. Et Alain me dit souvent que la maturité spirituelle, c'est la capacité à se repentir vite. Et ça, il le dit, à chaque fois que je prends le téléphone, il le dit. Repends-toi vite. Il dit, et moi je suis quelqu'un qui a besoin de tous les jours de repentance. Et si je retiens un modèle d'Alain dans ma vie, c'est la repentance. Il ne m'a pas montré un modèle du gars qui ne pèse jamais, qui est au top niveau, qui vraiment regarde moi comme je suis. Son exemple, c'est un exemple de quelqu'un qui reconnaît son besoin total de la grâce tous les jours, dans tous les domaines de sa vie. Et moi, en tant que jeune chrétien, c'est de ça dont j'ai besoin. De savoir que j'ai besoin de la grâce. Et donc, le jeune va se fortifier dans la grâce. Et donc, ça aide à créer l'humilité, à maintenir dans l'humilité, dans le besoin de la grâce. Il donne des encouragements. Et le jeune aussi, parce qu'il se sait encouragé, va se sentir redevable. Je dois être fidèle dans mon engagement. Mais c'est interchangeable aussi. Je pars du principe que l'adulte a acquis ce qui était dans la colonne pour le jeune. Et donc ça, c'est de la communion fraternelle. Il exhorte à la piété et il fonde sa vie sur sa relation avec Dieu. Et donc, il y a une sanctification aussi générale de l'Église. Puis un accompagnement dans le ministère, on va plus vite parce qu'il y a des choses qui sont déjà dites. Donc on donne des responsabilités, on peut les prendre, et puis on crée, on développe une culture de leadership dans l'Église. On va légitimiser, on fait confiance, et puis le jeune se sent légitime du coup pour prendre. Et on renouvelle les responsables. On enseigne par l'exemple, et on se forme par l'expérience. Et on lutte contre l'attentisme. Attendre que la génération d'avant ait craqué pour se lever. On anticipe les transitions et toutes ces choses. Et puis, ils veillent à l'enseignement théologique. Donc, il faut leur apporter, il faut leur donner du biscuit, il faut leur donner du lait, après il faut leur donner de la viande. Il faut veiller à ce que nos jeunes aient un enseignement solide. Et moi, j'aime beaucoup la génération qui monte en ce moment parce qu'elle est très élevée. Mais j'espère aussi qu'elle va avoir des fondements bibliques solides. Ça va avec. Et puis le jeune, il réalise du coup de la même façon que la vie chrétienne, c'est une formation théologique en continu. Et moi, je suis à l'Institut biblique de Genève et il y a trop de gars qui sortent de là et ils se disent ouais, « Moi, j'ai fait 4 ans de théologie, tranquille, je suis pasteur d'église, j'ai mon poste, et voilà. » On a besoin toute notre vie de nous former, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et je pense que la vraie compréhension de la parole de Dieu se mesure par une vie qui est transformée. Ce n'est pas juste de la connaissance générale. Et donc, bien sûr, ça concourt à une édification complète de l'Église. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques ? Est-ce qu'il y a des points avec lesquels vous n'êtes pas d'accord ? Est-ce que vous dormez ?
Oui ? Je pense à un aspect particulier de la responsabilité qui relève de la responsabilité de l'adulte, spirituellement parlant. Un critère de la maturité, c'est que en fait, on va confier une responsabilité à la mesure. Un peu comme en famille, on va dire, si on a un enfant de 4 ans, on part en vacances, on lui dit pas prends la valise qui pèse 30 kilos. Il va prendre le petit sac qui pèse 4 kilos. Donc il peut participer, mais on sait jauger le niveau. Et c'est criminel s'il n'y a pas cette maturité, ce discernement, de dire à l'enfant spirituel, tiens, tu vas prendre cette valise de 30 kilos. Et comme il est aidé, il essaie, et sur une ou deux. Donc, c'est un point qui mérite, je pense, d'être.
Merci.
Okay, parce que ça peut laisser des marques, c'est destructeur pour la communauté et pour la personne qui va accepter d'assumer une responsabilité qui n'est pas, pour laquelle il n'a pas la force, il n'a pas la maturité.
Merci beaucoup. Je suis à 100% d'accord. Et une image que j'aime bien, c'est qu'on ne tire pas, on a un agriculteur ici, qui sera avec moi, mais on ne tire pas sur une plante pour la faire pousser. Par contre, on l'arrose. Puis on peut mettre un tuteur pour l'aider à pousser. Mais on ne tire pas dessus, quoi. Je suis à 100% d'accord.
La difficulté de nos églises, c'est que les jeunes, qui ont 17-18 ans, commencer à les former à l'église, qui donc se sont engagés, c'est qu'ils vont en vivre, trouver du travail, se faire des études, et donc on a du mal après à les intégrer dans les responsabilités. Un éloignement de l'école est plus important que le développement habituel. C'est un peu une complication. Dans les églises urbaines, de toute façon, il y a des étudiants qui arrivent,
C'est pour ça que je vous disais au début, selon vos réalités, enfin, ce serait trop facile de dire il y a qu'à, il faut que, maintenant. qu'il y a un fait sociologique, et que je comprends tout à fait, mais et je vous avoue franchement, je ne sais pas c'est quoi la réponse. Quoi.
Juste une remarque.
Ouais, mais je, elle est très juste.
On envisage cette transition et cette transition.
Est-ce que vous avez sinon des idées concrètes pour mettre en place? Ça va venir.
Je pense que ça commence par de notre côté à essayer d'entrer en relation les uns avec les autres, de consolider vraiment les relations. Parce que sans ça, il n'y a rien de tout ça qui peut se mettre en place.
Donc, Lise disait de mettre, de consolider les relations, d'ores et déjà. La première chose, c'est d'être en relation, hein, pour échanger, si on n'est pas en relation, tout à fait. Donc, se mettre, consolider les relations. Plus de moments où on peut partager ensemble. Très bien. Alors, pour conclure, je voudrais juste vous dire, donner deux, trois éléments. Chaque génération doit désirer voir la suivante meilleure qu'elle. Et ça, je réalise que c'est un peu anachronique dans votre contexte, parce que j'ai bien vu, en tout cas, ce désir, ce fardeau pour la jeunesse. Et parfois, dans des églises qui sont vraiment établies, on reste en place et puis on veut avoir une mainmise et on pense qu'on est les meilleurs. vouloir voir Jésus se former en l'autre et non nous-mêmes. Jésus prend de plus en plus de place dans la vie de nos jeunes. Adapter aussi les relations au contexte local. On peut vivre des relations individuelles entre un jeune et un aîné, ou une jeune et une aînée, des relations qui vont être un peu plus exclusives, un accompagnement plus personnalisé. On crée une amitié comme un Paul avec un Timothée, comme Jésus avec Jean, enfin on en a parlé déjà ce matin. Créer une intimité qui va permettre l'accompagnement. Ou aussi en collectif, avec des temps formels et des temps informels. Les jeunes, moi, que j'ai accompagnés, et c'est ce que vous... Il me semble, ce qu'il y avait un petit peu tout à l'heure, dans les deux remarques, c'est qu'on discute ensemble, on passe du temps, voilà. Et puis aussi la formation, la préparation au ministère. Et puis là, ça vaut le coup, des fois, de mettre des éléments plus formels, hein, des éléments de formation, des choses comme ça. Spécialisé ou non, un pasteur, un jeune qui a un cœur pour le ministère pastoral, peut aller voir un ancien ou un pasteur pour apprendre, découvrir... comprendre quel est ça. Et puis que ça doit toujours se vivre par contre au sein de la communauté. Pas une relation duelle qui se suffit à elle-même en dehors de la communauté. Ça, je pense que c'est très important à avoir à cœur. Et j'aime bien cette citation. Ah, j'ai oublié son nom. Martin Sanders, qui dit: pourquoi est-ce que les aînés ne donneraient pas la dîme de leur temps dans leur ministère, qu'elle soit consacrée à l'accompagnement de plus jeunes? Tous les aînés. J'aime bien. Ça me plaît. Voilà. J'en ai terminé.